J'appelle de Boudin-Tchassa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, je suis André de Mboujimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs. Le ministre congolais de l'industrie, Julien Paluku, a invité jeudi 21 mars les opérateurs économiques congolais à investir dans la nouvelle zone économique spéciale. Il a effectué ce même jeudi une visite d'inspection à la nouvelle zone économique spéciale dans la commune de Lancélé, dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Dénommé Kinmalebo, ce nouvel espace des affaires s'étend sur 500 hectares que l'État congolais a mis à la disposition de l'entreprise Erise pour y développer des activités industrielles, explique Julien Paluku. Il encourage les investisseurs congolais qui sont intéressés à faire des affaires dans cette zone à se manifester car, ajoute-t-il, déjà près de 100 hectares sont discutés par les investisseurs. Des jours plus tard, le samedi 23 mars, Julien Paluku est son homologue du ministère de l'entrepreneuriat Petite et moyenne entreprise PME, Désiré Birianze, ont inauguré à Kinshasa la première usine de production des cure-dents sur base de la chaîne de valeur des bambous. Cette usine est installée dans la commune de Limété. Julien Paluku assure que cette entreprise bénéficie des exonérations de l'État. Que pensez-vous des stratégies mises en place depuis près de 5 ans par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie pour booster le secteur de l'industrie en RDC? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant le 081 890 63 30 ou le 081 890 49 69. Patrick Kiasongwa est à la mise en onde de ce magazine et Blaise Chindani en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Encore une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Paroles aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui des stratégies mises en place depuis près de 5 ans par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie pour booster les secteurs de l'industrie de la RDC. Pour commenter ces sujets, nous recevons dans cette émission, il est en ligne, Monsieur le ministre Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie du gouvernement central. Bonjour Monsieur le ministre Julien Paluku.
Oui, bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi disséminés à travers le monde.
D'abord, vous venez d'annoncer la création d'une nouvelle zone économique spéciale dans la commune de Lancélé, que vous appelez Kinmalebo. Mais avant de parler des particularités, n'est-ce pas, de cette nouvelle zone économique spéciale, on voudrait savoir ce qu'est devenue la zone économique spéciale de Maluku. Est-ce qu'elle elle a pu attirer les investisseurs comme vous l'avez souhaité? Si oui, quelles sont les activités qui y sont développées, Monsieur le ministre?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout de suite dire que la première expérience que nous avons pilotée à la tête du ministère de l'Industrie en matière des zones économiques spéciales, c'est celle de Maluku, qui est de 243 hectares qui sont disponibles sur 800 hectares que nous devrions utiliser. Mais comme vous le savez, il y a eu une spoliation au début, ce qui a fait que on est resté qu'avec 243 hectares. Et à la date d'aujourd'hui, presque 90% de ces 243 hectares sont déjà pris par les investisseurs. Et vous avez suivi pas plus tard qu'il y a quelques mois, le président de la République lançait lui-même la première production de carreaux et de faïence, qui sont des matériaux de construction que nous importions de l'extérieur et qui pesaient lourdement sur nos importations. Et la deuxième activité qui est dans la zone économique, c'est la production, la construction de l'usine de fabrication de produits Pepsi que nous allons inaugurer au moins entre les mois de mai et les mois de juin prochain, donc de cette année 2024. Il y a la troisième usine qui va naître dans la zone, c'est celle de production de médicaments, parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, on a trouvé que nous importons pour plus de 400 millions de dollars les médicaments en RDC. Et donc, la valeur de cette usine, c'est de réduire effectivement cette grosse facture qui pèse lourd. Parce que à chaque fois que nous importons, ça veut dire sortir de nos devises. Et c'est ce qui déséquilibre, en fait, notre économie et même le taux d'échange. La quatrième activité de la zone de Maluku, c'est l'usine d'emballage. Vous savez que tous les opérateurs économiques qui sont en RDC, ils peuvent produire, mais ils n'ont pas d'emballage. C'est-à-dire, nous continuons à importer les emballages de l'extérieur, même si nous produisons localement nos produits, si on peut se répéter ainsi. Donc voilà autant d'activités dans la zone économique spéciale de Maluku. C'est donc une zone qui est en pleine forme, qui est en plein essor, mais comme tout le monde le sait, une zone à ses débuts, à sa vitesse de croisière et en forme. Donc ce n'est pas en une année, en deux ans, en trois ans que toutes ces activités-là que je viens de citer vont devoir prendre les vitesses de croisière. Nous y allons, mollo, comme on l'a dit, mais ceux qui veulent être des témoins vivants, ils peuvent passer à Maluku, ils verront qu'il y a une grande activité industrielle et beaucoup d'emplois qui sont déjà créés.
Kilimalebo, la nouvelle zone économique, quelle est sa particularité par rapport à celle de Maluku?
Oui, alors Kilimalebo, c'est une nouvelle zone qui est née à la suite d'une décision du gouvernement. Le gouvernement, je crois, en 2022, avait pris la décision d'interdire l'exportation des grumes, c'est-à-dire les bois naturels, les bois qui viennent de l'Équateur, les bois qui viennent de l'espace Bandundu, les bois qui viennent de partout ailleurs, Beni, etc. Et on a pris la décision par le gouvernement d'interdire l'exportation parce que la République ne gagnait rien lorsque nous amenions nos bois à l'extérieur en termes de retour sur devises. Nous perdions près de 90% de la valeur marchande de notre bois. Donc, on a interdit l'exportation des grumes, mais il ne fallait pas seulement s'arrêter à l'interdiction. Nous sommes dit maintenant, comme une seule industrie, nous saisissons la balle au bon, il faut maintenant qu'on transforme notre bois. C'est ainsi que nous avons fait une visite avec notre collègue en charge de l'environnement au Gabon, où il existe une zone économique spéciale qui transforme les bois à presque 80% d'utilisation. C'est la zone économique spéciale d'Nkok. Nous nous sommes rendus là-bas pour voir comment eux ils font. Et nous sommes tombés sur un investisseur, c'est Araïs, effectivement, qui venait de manifester par une lettre d'intérêt son intention d'investir en République démocratique du Congo. Et il fallait aller voir ce qu'il faisait là-bas, comment cela a contribué au budget de l'État. Et je peux vous dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le secteur des bois transformés auquel on a ajouté de la valeur a contribué en 2021 à hauteur de 3,4 milliards de dollars dans le budget ou l'économie gabonaise. Et or, vous savez que la valeur des forêts qu'elle détient la RDC est de loin supérieure à celle du Gabon. Alors, donc, si le Gabon peut avoir, à la suite de sa transformation du bois, près de 3,4 milliards ou 3,7 milliards l'an par la transformation, quand sera-t-il de la RDC, nous qui avons la deuxième grande réserve mondiale de nos forêts. Et donc, nous avons invité l'investisseur et en novembre 2022, nous avons signé avec lui, à travers l'Agence des zones économiques spéciales, le contrat d'aménagement de la zone Kilimalebo, avec comme spécialité la transformation du bois. C'est-à-dire tous les produits dérivés du bois, qu'il s'agisse des lits, des portes, des fenêtres, des armoires, et les autres comme les papiers, les cahiers, les cartons, vous savez, même les cartons ici, simples, ça vient du bois. Tous ces produits-là, désormais, vont être faits dans la zone économique spéciale Kilimalebo. Et il s'agit ici de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, nous produisons le bois, nous le transformons, et les déchets que rejette une usine deviennent la matière première d'une autre usine. De manière à ce que, et les papiers hygiéniques, et les papiers, et les rames de papier, et les cahiers d'école, tout cela produit... Tout sera produit ici, en République démocratique du Congo, dans la nouvelle zone. Donc c'est ça la première spécialité. La deuxième spécialité, c'est l'industrie pharmaceutique aussi. Parce que nous sommes une population très très nombreuse, même si au niveau de la zone de Maluku, il y aura un segment du secteur pharmaceutique, nous installerons aussi dans la zone de Kilimalebo d'autres segments du secteur pharmaceutique pour nous permettre d'être les pourvoyeurs des médicaments. Pas sur l'ensemble du monde entier, mais au moins capter les marchés africains avec toutes les maladies que nous connaissons. Et donc, l'objectif, c'est en fait permettre que les secteurs industriels contribuent à notre produit intérieur brut, produit à la création de richesses, contribuent à la formation et à la création d'emplois, et ainsi, peut-être à hauteur de 30-40%, être l'élément moteur de la formation de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses congolaises. Oui. Voilà brièvement ce que je peux dire de la zone économique Kin-Malebo, qui est située à 40 km du centre-ville de Kinshasa.
Monsieur le ministre Julien Paluku, on se rappelle que lorsque, en 2019, vous étiez nommé à la tête du ministère de l'Industrie, la première action que vous avez entreprise, c'était l'élaboration du document des stratégies et des politiques industrielles DPCI en sigle. Quelques temps après, vous dotez, n'est-ce pas, les pays d'un plan directeur d'industrialisation de la RDC. Alors, on voudrait savoir à quoi ont abouti, n'est-ce pas, toutes ces stratégies en termes notamment de création des usines, en termes de création d'emplois. Et aussi, est-ce qu'on peut, même si c'est encore tôt, est-ce qu'on peut déjà quantifier leur impact sur l'économie de la RDC?
Merci. Moi, je pense que la plus grande réalisation que je peux me prévaloir à la tête du ministère de l'Industrie, c'est d'avoir doté les pays de la politique industrielle. Parce que depuis 1960, nous n'avions pas de politique industrielle, c'est-à-dire nous n'avions pas de boussole. Si vous venez investir en RDC, quelle est la politique que vous devez suivre? Quelle est l'orientation industrielle que le pays donne? Et donc nous avons élaboré ce document en 2020, mais on ne s'est pas arrêté à cette politique industrielle parce que chaque secteur doit avoir une politique sectorielle. Et c'est la première fois que la RDC a ce document. Malheureusement, ce sont des réalisations immatérielles que les gens ne savent pas voir. Mais tout intellectuel qui me suit comprendrait tout de suite qu'un pays sans boussole, sans politique industrielle, c'est un pays qui est voué à l'échec. Alors, à part la politique industrielle, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, nous avons élaboré un instrument de mise en œuvre de cette politique. C'est ce que nous avons appelé le plan directeur d'industrialisation, qui en fait définit les différentes composantes pour devoir passer à l'industrialisation de ces pays à l'horizon de 15 ans. Et ces composantes sont au nombre de 6. Il y a ce plan défini quels sont les types d'infrastructures routières qu'on doit construire sur l'ensemble de la République pour assurer l'interconnexion du pays et permettre que les industries s'installent partout. Quelles sont les centrales hydroélectriques qu'il faut construire dans tous les coins et recoins de la RDC? Quels sont les ports? Quels sont les aéroports? Quels sont les chemins de fer? Ce plan directeur établit tout cela. Et une dernière composante, c'est la composante des zones économiques spéciales qui sont maintenant des incubateurs où doivent évoluer les unités industrielles qui sont les formateurs d'emplois, les créateurs d'emplois dans chacun des espaces tels que nous les avions divisés à l'époque. Nous avions divisé la RDC à travers la volonté du président de la République par son discours de 2019 en 6 espaces industriels. Parce que nous sommes un grand pays, chaque espace a son profil économique et donc chaque espace doit avoir son orientation industrielle. Et donc nous avions divisé la RDC en espaces industriels avec un profil économique et une orientation industrielle à lui donner. Et donc cet instrument-là pour moi, c'est la plus grande réalisation que je peux me prévaloir, comme je l'ai dit, à la tête de ce ministère, parce que tout celui qui viendrait après Julien Paluku aura une politique industrielle, aura un instrument de mise en œuvre de cette politique qui s'appelle plan directeur, qui est même chiffré à 58,4 milliards de dollars. Donc on n'a plus à chercher ailleurs que dans le plan d'industrialisation, et moi je le considère d'ailleurs comme le plan Marshall de la République démocratique du Congo. Si on s'approprie le plan directeur d'industrialisation, eh bien, on ferait comme l'Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a mis en œuvre le plan Marshall et qui fait de lui aujourd'hui une des grandes puissances au niveau mondial.
Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des stratégies mises en place depuis près de 5 ans par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie pour booster les secteurs de l'industrie de la RDC avec notre invité, le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie du gouvernement central. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 081 890 63 30 ou 081 890 49 ou 69. Nous allons donc à présent ouvrir le standard avec les auditeurs qui sont déjà en ligne. Et Blaise me signale que nous avons déjà Peter Maboudi. Peter Maboudi de Kinshasa, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Dimaté. Je salue l'invité ainsi que tout le secteur de la radio Capi.
Voilà, on vous écoute, Peter Maboudi.
Oui, merci monsieur Guy Maté pour m'avoir associé. Partant de la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014, fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC, et également les décrets de 2022, où le gouvernement de la République du Congo avait fixé les avantages et facilités accordés aux investisseurs opérant dans ces zones économiques spéciales dans notre pays. C'était une stratégie qui est salutaire par rapport aux besoins primordiaux que le pays a besoin justement pour relever les aspects économiques et les aspects industriels, comme le ministre venait de le préciser, à travers tout ce qu'il a eu à initier comme réforme au niveau du ministère, justement pour rendre rentable et efficace ce programme que lui-même a qualifié le programme de maraîchage. Mais cependant, M. Marcel, nous avons, depuis l'avènement du chef de l'État à la tête du pays, constaté que presque tous les voyages qu'il a eu à effectuer à travers le pays, tant bien même ces voyages avaient une dimension diplomatique, et également ces voyages avaient également une mission d'assister les investisseurs à venir en RDC au regard de son aspect qu'il a évoqué, un pays géo-scandale, donc il y a un pays qui est scandaleux géographiquement par rapport à ces immenses richesses que nous avons. Et partant de l'introduction du ministre, M. Guy Maté, j'ai un peu d'inquiétude par rapport à l'explication qu'il a fournie de par la zone économique spéciale de Maluku qui a été créée depuis le 2014. Mais aujourd'hui, que le ministre dit noir sur blanc qu'il y a une partie de cet espace qui est pollué. Donc, partant du principe, le sol et tout le sol appartiennent à l'État, et je ne pense pas que l'État peut se plaindre à ce niveau d'exploitation de ce sol et sous-sol, qui devrait d'ailleurs contribuer au bien-être de la population en général. Je crois que cet aspect qu'il vient d'évoquer, ça me rend un peu perplexe, parce que c'est le gouvernement qui devrait s'assumer, justement, pour voir comment ces gens sont arrivés à exploiter ces espaces, parce que ces derniers espaces ont été déjà reconnus dans la loi comme des zones spéciales qui devraient contribuer à l'économie du pays. Donc, et aujourd'hui également, l'idée qu'il a envisagé d'assister les investisseurs congolais, c'est ce que nous avons toujours souhaité. Le Congo ne sera jamais développé par les étrangers, si ce n'est que nous-mêmes. Mais à nous, en interne, est-ce que le climat environnemental, donc l'environnement économique, l'environnement fiscal, l'environnement légal, est-ce que cet environnement est assaini pour que nos frères puissent investir aisément? Donc aujourd'hui, ceux qui investissent au Congo, partant de leurs petits moyens, ils font face à des tracasseries fiscales. Donc vous commencez une activité, il y a plusieurs services qui viennent vers vous pour le paiement des impôts et taxes. Et je crois même les investisseurs qui sont sur le sol congolais ne s'imprègnent pas des lois que nous avons. Donc, merci. Partant de cette loi, ils doivent également aussi s'imprégner des avantages et faciliter accordés à ces investisseurs.
Merci,
donc, notamment, il y a certains impôts où ils ne peuvent pas payer, mais s'ils sont dans l'ignorance, donc ils seront obligés de tracasseries des services de l'État que nous avons.
Merci,
et également,
Peter.
Si les services doivent s'investir à maîtriser, à connaître leurs limites et les lois qui les régissent, chacun dans ce secteur, pour permettre au pays d'avancer. Donc, je crois que l'idée est salutaire et nous ne pouvons pas nous limiter à ce niveau-là.
Merci, Peter. On a compris. On prend aussi Amos Bissimwa, qui intervient depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu. Amos Bissimwa, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Guy.
Bonjour.
Bonjour, Guy. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, Amos Bissimwa. On vous écoute, Amos Bissimwa. Posez votre question.
Merci. Merci bien. Au fait, nous tenons à saluer l'initiative du ministre Julien Paluku, mais si nous essayons de faire une petite analyse par rapport aussi au temps, 5 ans depuis que l'idée avait été lancée, ou l'initiative avait été lancée par notre gouvernement à travers le ministère de l'Industrie, si nous essayons d'évaluer les résultats, est-il lui-même satisfait du résultat? Parce que du côté du peuple, sincèrement, moi je ne vois pas cet impact. Si on peut nous dire que 5 ans après, on a installé ne fût-ce que l'usine pour la production de Kirda, vraiment c'est étonnant par rapport aux attentes du peuple congolais. Et là, j'insiste beaucoup sur la question du temps. Et c'est ça le problème pour nous, peuples congolais, parce que souvent nous avons des dirigeants qui ne tiennent pas compte du temps. Ils pensent que tout l'État leur appartient et qu'ils peuvent faire tout ce qui leur semble sans tenir compte du temps, au moment où il y a des sérieux problèmes au pays auxquels ils doivent trouver des solutions dans l'extrême urgence.
Merci.
Je venais de suivre le premier intervenant. Vraiment, je fais mien certains de ses propos pour qu'on parvienne à intéresser les investisseurs. Il y a des préalables et des exigences dites. Parmi ces exigences, il faut voir d'abord la question sécuritaire. C'est un problème sérieux jusque-là dans notre pays. Il faut voir aussi les tracasseries auxquelles font face les investisseurs. Je prends seulement les exemples des investisseurs locaux qui sont en train de fermer leurs entreprises à cause des tracasseries fiscales. On ne parvient pas à comprendre, et ce sont les mêmes dirigeants qui sont à la base de ces problèmes-là. Je ne vois pas ces investisseurs étrangers qui viendront investir au Congo au moment où, jusque-là, le climat des affaires n'est pas assaini.
Merci.
La CENI ne permet pas à ses investisseurs de bien faire leurs activités.
Merci.
Moi, je pense que les Congolais, nous ne serons pas en train de suivre des discours à longueur de journée au moment où, sur le terrain, parce que j'ai suivi le ministre qui a parlé, bientôt on va produire des cahiers, on va produire je ne sais quoi. Mais des discours qui ne produisent absolument rien n'intéressent plus l'homme congolais à l'heure qu'il est. Nous voulons plutôt vivre des actions sur terrain.
Merci, Amos Bissimoa. Merci, on a compris. On va aussi prendre Georges Kilangalanga qui intervient depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Georges, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour, monsieur. Oui, je suis là.
Bonjour
Georges. Bonjour, bonjour au ministre Julien Panoukou et à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, on vous écoute, Georges.
Oui, merci beaucoup. C'est une thématique très importante. Et la stratégie du gouvernement qui consiste à la création des zones économiques qui sont, et cette stratégie est très salutaire, mais néanmoins c'est une stratégie qui est sujette à quelques préalables. Les amis l'ont déjà dit, il y a la fiscalité, Peter Mabidi qui m'a précédé l'a dit, l'énergie, la route, on le sait que la RDC est un pays enclavé totalement. Mais aussi, ce que moi je remarque de la création de ces zones économiques, on assiste à une concentration de pratiquement, le ministre l'a dit qu'on a créé six espaces industriels à travers le pays, mais jusqu'à ce jour, je peux dire même la majorité de toutes les zones économiques qui sont déjà exploitées aujourd'hui sont concentrées à Kinshasa. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, on assiste à une extraversion ou à l'exogénéité de politiques publiques au Congo. Le ministre vous a parlé, par exemple, que la mise en pratique de toutes ces zones économiques nécessite 58,4 milliards de dollars. Mais posons-nous la question. Le gouvernement congolais a contribué à hauteur de combien? Aujourd'hui, l'État n'est pas seulement un État, donc le rôle de l'État, le rôle moderne de l'État, souhaite à ce que l'État puisse être un État investisseur. Mais chez nous, tout c'est l'étranger. Il faut investir un petit projet, mais on se demande, quel fait le budget de l'État? Est-ce que la RDC a vraiment un budget d'investissement? Quel est le rôle de l'État dans ça? Bien sûr, l'État peut mettre les bonnes conditions pour que les investisseurs viennent. Mais est-ce que l'État ne peut pas lui-même être initiateur de certains projets qu'il peut financer lui-même, ou soit recourir à des partenariats publics-privés? Ça existe ailleurs. Mais ici, chez nous, même des petits projets pour les Kirdans, et on fait beaucoup de publicité, il faut les étrangers.
Merci, Georges. On a compris. Il faut aussi donner la parole aux autres qui veulent intervenir.
Je voulais terminer, monsieur Dimaté, en disant que l'impact de ces zones économiques existe dans le discours des ministres qu'on vous entendez là. Mais dans le fait, il n'y a pas grand-chose.
Merci.
Sur le plan des Congolais, l'emploi, sur le plan économique général, l'impact de ces zones économiques ne sont pas sensibles.
Merci.
Et le gouvernement a tout intérêt à mettre du sérieux dans ce domaine au lieu de rester dans le vide.
Merci. Marcel Matisse, depuis Kinshasa, est-ce que vous êtes là? Marcel Matisse? Marcel Matisse, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, mais c'est qui, pardon?
Bonjour, bonjour, Marcel Matisse. On vous écoute, Marcel Matisse.
Ouais, merci beaucoup, M. Kimate, pour la thématique du jour. Je salue l'invité et je salue tous les éditeurs de la radio Okapi. Ouais. J'aimais beaucoup la thématique du jour. Vous savez, dans notre pays, même, il y a quand même dans les secteurs quand même qui pouvaient quand même apporter un peu quelque chose. Mais nous, avec des négligences, parce que moi, je demande un peu au monsieur le ministre, est-ce qu'il pouvait être content par rapport au passé les 5 ans et il pouvait quand même nous faire quand même un plan libre ou bien quelque chose qui y a eu à passer quand même à la tête de ce ministère. Parce que passer 5 ans quand même sur le terrain, on n'a pas vu au moins quelque chose. Moi, je pense quand même avec ces zones économiques quand même, nous, on pouvait quand même profiter quand même. Parce que notre pays, ce n'est pas qu'on manque quand même l'argent. L'État quand même pouvait quand même être le premier à se baser quand même dans ce secteur-là. Mais ce qu'on remarque quand même, si on a quand même des projets, si on a quand même quelque chose, on préfère toujours avoir quand même des étrangers qui viennent toujours investir. Mais nous, les Congolais, on se demande, on n'a pas l'argent ou de notre État congolais. Manque un peu d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est fier quand même d'attendre, quand même, il y aura quand même l'inauguration de l'usine de Kirtan. Ouais, quelque chose qui sera quand même encouragé, quand même, que ça pouvait quand même, les Congolais pouvaient quand même avoir quand même le travail. Mais on se demande quand même sur le terrain, en regardant quand même la République démocratique du Congo, presque le 26 provinces qu'on a, on pouvait quand même avoir un peu quand même ce genre d'initiative quand même, qui est quand même louable partout, pour que les Congolais se retrouvent quand même.
Merci.
Le chef de l'État, avec son deuxième mandat, il a dit quand même qu'il va beaucoup travailler pour que les jeunes, dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour que les jeunes se retrouvent aujourd'hui. Mais en regardant quand même comme notre système fiscal marche quand même au Congo, avec comment les affaires se marchent, le chef de l'État quand même a eu quand même le temps de se déplacer même partout, pour quand même que les étrangers puissent quand même investir dans notre pays. Mais on ne voit pas quand même si c'est quelque chose qui se voit, qui se fait. Mais on écoute toujours des discours. Depuis que le monsieur Julien Palou, il est là, on entend toujours de bonnes paroles, de bonnes initiatives. Mais sur le terrain, quand même, monsieur Kimate, on ne les sent pas.
Merci, Marcel. On a compris. Vous ne sentez pas les choses sur le terrain. On va redonner la parole à notre invité. Monsieur le ministre Julien Paloukou, vous avez entendu les préoccupations, n'est-ce pas, des uns des autres. Peter de Maboudi de Kinshasa qui s'inquiète, n'est-ce pas, par rapport à la zone économique des Maloukou. Le fait que il n'y a que 243 hectares qui sont disponibles, le reste a été un espace pollué, et il évoque sur les tracasseries fiscales, et Amos Bissimoi qui vous pose la question, est-ce que vous êtes satisfait, n'est-ce pas, des résultats, après 5 ans à la tête de ce ministère? Et il y a Georges Kilangalanga qui parle des zones économiques, n'est-ce pas, concentrées seulement dans la ville de Kinshasa, et puis tenues, n'est-ce pas, par les étrangers, pas par les nationaux. Et puis Marcel Matisse de Kinshasa qui demande pourquoi on ne peut pas étendre, n'est-ce pas, cette expérience à toutes les provinces de la RDC. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, je voudrais remercier tous les intervenants, Peter, Amos, Georges et Marcel, hein, pour leurs soucis. Je vois effectivement que beaucoup d'auditeurs ou beaucoup de gens ne suivent pas ce qui se fait en fait au ministère de l'Industrie. C'est l'occasion ici de restituer un peu ce qui a déjà été fait, et à part les réalisations immatérielles, ce que je les ai citées maintenant, à savoir la politique industrielle et le plan directeur d'industrialisation. Je dois dire que un ministre ne construit pas une usine, un ministre ne construit pas un bâtiment, un ministre élabore des politiques et crée des conditions pour permettre au secteur privé d'investir. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Lorsque vous apprendrez que tel vous dit qu'un ministre a construit une usine telle, telle et telle, ça c'est du mensonge. Le gouvernement crée les cadres et attire les investissements aussi bien nationaux qu'étrangers. Et qu'est-ce que nous avons fait? En arrivant à la tête du ministère de l'Industrie, il y avait un instrument de financement de l'industrialisation qu'on appelle Fonds de promotion de l'industrie. Et nous avions constaté que les gens n'accédaient pas à ces fonds. C'était devenu presque un fonds entre dignitaires. Les gens se partageaient les moyens, se donnaient des crédits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le portefeuille qui est en souffrance est de près de 200 millions de dollars parce que simplement les fonds étaient alloués à des dignitaires à gauche à droite. L'inspection générale des finances est sur la question pour nous aider à recouvrer cet argent-là. Alors, nous sommes arrivés, première activité, nous avons réduit le taux d'intérêt qui était situé autour des 10%. On l'a réduit à 6% pour tout le monde et à 4% pour toutes les entreprises tenues par les jeunes et les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout jeune, comme ce que je viens de citer ici, qui sont porteurs de projets, il faut vous adresser maintenant au fonds de promotion de l'industrie. Au lieu de vous adresser à une banque qui a un taux de 18% ou de 14%, l'État vous accorde la possibilité de financer votre projet au taux annuel de 4%. Donc c'est pas le ministre qui va encore chercher l'argent et aller investir. C'est un moyen d'attirer l'investissement congolais à s'orienter vers les fonds de promotion de l'industrie.
Et vous pensez que, monsieur le ministre, sans pour autant vous couper, est-ce que ces jeunes qui veulent accéder à ces financements du FPI, est-ce qu'ils peuvent y accéder sans beaucoup de difficultés?
Oui, lorsque nous avons fait maintenant une évaluation, parce que depuis que nous sommes là, on a injecté les petites recettes du FPI, on a injecté près de 300 millions de dollars dans l'économie congolaise en finançant les différentes activités que je vais citer ici, mais beaucoup de jeunes n'ont pas eu accès à ces financements parce que simplement les règles du FPI demandaient qu'on puisse avoir une garantie. Or, un jeune qui commence n'a ni maison, n'a ni champ, n'a ni véhicule à hypothéquer. C'est ainsi que vous avez suivi dernièrement, nous avons fait une évaluation et le gouvernement a créé un fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo qu'on appelle FOGEC. Désormais, tout jeune qui a un projet bancable, mais qui n'a pas de garantie ou d'hypothèque, il va se faire garantir son crédit au FPI par le FOGEC de manière à accéder au fonds sans même déposer une hypothèque. C'est une évaluation qui nous a permis de passer à cette étape et aujourd'hui donc, vous avez votre projet de n'importe quel montant, vous vous adressez au FOGEC, le FOGEC l'étudie, dès qu'il l'a approuvé, il s'adresse au fonds de promotion de l'industrie et le fonds vous finance. Et le FOGEC se porte garant de l'exécution de votre projet. Donc ce sont des innovations comme ça que nous avons apportées au niveau du FPI. Maintenant, les gens se disent, mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a été fait? Moi, je pense que beaucoup de choses ont été faites à travers le ministère de l'Industrie. Je dois donner 3 ou 4 exemples. Depuis 1960, nous importions tous des câbles électriques. Nous étions en train d'exporter des minerais à l'état brut. Mais par la volonté de la transformation locale exprimée par le président, peut-être les gens ne le savent pas, à travers le ministère de l'Industrie, nous avons piloté 2 grands projets à Kinshasa et au Katanga. Et aujourd'hui, nous produisons des câbles électriques et nous avons limité les importations de tous ces câbles-là. La SNEL ne peut plus importer ces câbles électriques de l'extérieur. Maintenant, elle peut faire la commande au niveau du pays parce que on produit près de 4200 différents types de câbles électriques en République démocratique du Congo et c'est l'usine qu'on appelle, la société qu'on appelle Proton à Kinshasa et celle qu'on appelle MES à Lubumbashi. Aujourd'hui, pour la régie des eaux qui dépensait beaucoup d'argent pour l'importation des tuyaux avec bien entendu le secteur minier, tous les tuyaux utilisés dans les chantiers miniers étaient importés. Aujourd'hui, on est à même de produire tous les types de tuyaux en République démocratique du Congo. C'est une deuxième innovation. Troisième innovation, dans le Congo central, nous produisons aujourd'hui les emballages. Il y a une usine qu'on appelle Bag & Sack qui produit les emballages en République démocratique du Congo. Lorsque vous allez dans l'espace Bandundu, nous sommes aujourd'hui, on a financé par le gouvernement à travers les FPI, une société qu'on appelle Krisnovich, qui transforme maintenant l'huile de palme et qui produit l'huile palmiste, l'huile raffinée jusqu'au biodiesel. Ça nous coûtait énormément d'argent et la Marsavco qui fabrique tous les produits dérivés des huiles importait l'huile de palme de la Malaisie. Maintenant aujourd'hui avec Krisnovich, qui est une usine déjà fin prêt où on commence à produire, on va limiter cette facture d'importation. Alors, il y a autant d'exemples que nous pouvons citer. Dans l'espace Kasaï, le FPI a financé la construction de la centrale hydroélectrique de Chipuka, pas hydroélectrique, centrale solaire, parce que le ministère de l'Industrie a la charge de financer toutes les infrastructures industrialisantes. Et quand on finance une centrale hydroélectrique ou solaire, c'est pour permettre l'installation, en fait, des unités industrielles dans les parages. Lorsque vous descendez un peu partout dans l'espace Kivu, le FPI finance une nouvelle cimenterie, étant donné que nous sommes alimentés par les Rwandais, par l'Ouganda, à travers les Hima Cement. Maintenant, le FPI, avec l'évaluation qui a été faite, finance une usine de production de ciment au niveau de l'espace Est. Donc, c'est l'échantillon de ce que nous avons fait. Nous avons trouvé la RDC avec 525 unités industrielles. Nous allons finir notre mandat à la tête du ministère avec 800 unités industrielles, c'est-à-dire dans les 5 ans, on a ajouté 300 nouvelles unités industrielles. Ce n'est pas beaucoup, mais déjà le fait d'avoir fait ces bons nous donne la trajectoire que le ministère est en train de tracer pour que demain, après demain, le secteur industriel participe effectivement à la formation des richesses congolaises et le nombre d'emplois que cela a créé sont des milliers d'emplois, évidemment. Quand on a 1 million de chômeurs, 2 millions, 3 millions, 4 millions de chômeurs en RDC, même si vous dites que vous avez créé 5 000 emplois, 10 000 emplois, ça apparaît effectivement comme une goutte d'eau. Mais le pays ne se développe pas en une année, en 2 ans. Nous devons observer la trajectoire que d'autres pays ont pu faire. Je cite toujours la Chine. La Chine a commencé ses zones économiques spéciales en 1979. C'est aujourd'hui que la Chine est parmi les grandes puissances 40 ans, 50 ans plus tard. Et donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie de tracer la trajectoire congolaise et les gens doivent davantage soutenir ces ministères pour que ceux qui viendront se placent dans la même dynamique de développement de manière à permettre à la RDC demain d'être les moteurs du développement économique de l'Afrique.
Merci. On ouvre une fois de plus notre standard. On m'apprend que Obed est en ligne. Obed est depuis Kinshasa. Obed, bonjour.
Et bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue messieurs les ministres ainsi que Franck Devienne depuis Franck et Devienne.
On vous écoute Obed.
Oui, monsieur Guy Maté, vous savez, on a suivi comment est-ce que messieurs les ministres nous a en tout cas étalé les paillassons des projets, d'initiatives et justement de la politique qui est mise en place pour la matérialisation de ces projets qui est d'ailleurs salutaire parce que au regard de notre pays, si l'on essaye de regarder la santé hein, ou soit les climats en ce qui concerne l'industrialisation dans notre pays, tout de suite vous allez vous rendre compte que la RDC est un pays non industrialisé. Pourquoi? Parce que on a des gouvernants justement qui veulent tout faire des choses à leur gloire et évidemment pour leurs propres intérêts. Mais bon, avec les projets qui est mis en place justement sous la houlette du ministre Julien Paluku, nous osons croire qu'il il y aura quand même un certain nombre de sériosités qui va justement essayer de permettre la matérialisation de ces projets parce qu'aujourd'hui, au regard du nombre important de jeunes chômeurs et sans emploi, je pense que les projets sous examen vont permettre justement en termes d'employabilité pour essayer d'en édulcorer tant soit peu face aux vices auxquels nous faisons face. Donc, en plus, monsieur Guy Maté, j'aimerais aussi rappeler à messieurs les ministres que c'est comme on l'a vu au mandat passé du chef de l'État qui a effectué autant de voyages pour chercher les investisseurs. Mais entre nous soit dit, on sait très bien que pour chercher les investisseurs, c'est pas aussi une mince affaire parce que vous ne les avez pas enfermés dans un bâtiment, auquel cas, dès que les besoins se présentera, vous allez justement aller les chercher pour que ces derniers puissent venir investir dans les pays. Mais il sait justement ce qu'on appelle même les « doing business » en économie. Monsieur le ministre, c'est de quoi je parle, ça veut dire qu'il crée un ensemble des normes ou des règles et des réglementations relatives aux conditions qui faciliteraient en tout cas la réalisation des affaires dans des pays, voyez-vous. Donc c'est là aussi, c'est à ce niveau que les problèmes aussi se posent parce qu'on a vu justement par ces projets, les ministres invitent les jeunes investisseurs congolais à venir justement prendre part à l'initiative qui est mise en place. Mais quel est le climat en termes justement des textes et des lois qui pourrait permettre, évidemment, j'ai suivi les ministres, il a dit qu'il y aura les quelques exonérations, c'est bien déjà, c'est bien, c'est un pari gagné, parce que c'est là où se posent les problèmes, parce que les Congos ne paient quand même pas, moi je l'ai toujours dit, importer tout, non, c'est la transformation qui pose problème, parce que au regard des ressources que nous avons, si on prend conscience, si on prenait conscience, c'est juste, justement, de tout ce qu'on régorge comme ressources naturelles dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, les ministres, justement, essayent de mettre en place, essayent de peaufiner, bien entendu, son ministère. Mais qu'en est-il des d'autres ministères? Qu'en est-il du ministère de l'agriculture? Qu'en est-il des ministères des mines, etc., voyez-vous? Et aussi, pour citer monsieur Guimanté, je pense qu'aujourd'hui, les projets beaucoup plus de nos gouvernants sont calqués sur base de leurs images. Aujourd'hui, voyez-vous, c'est pas à vous que je vais rappeler qu'il y a les principes de la continuité de l'État. Ça veut dire que ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont laissé quoi? Nous, à ce niveau, pourquoi on ne peut pas continuer déjà avec les projets qui sont mis en place? Voyez-vous, c'est ce qui tue notre pays.
Merci,
parce qu'aujourd'hui, ces projets est fait sous la houlette de M. Julien Paluku. C'est lui qui viendra après M. Julien Paluku, va chercher à faire quelque chose qui sera calqué sur son image. C'est ça qui tue les pays jusqu'à
là.
Mais en tout cas, les projets salitaires, et nous attendons voir son essor de manière... En tout cas, tel que nous le souhaitons.
Merci, Maître Patrick Odia, depuis Lubumbashi. Est-ce que vous êtes là?
Guimaté, bonjour.
Bonjour, Maître Patrick Odia. On vous écoute, Maître Patrick Odia.
Bonjour à tous les auditeurs et aussi à M. Julien Patrick.
Maître Patrick, il y a beaucoup de bruit autour de vous, hein?
Non, je suis là.
Allez-y.
Ok, je disais...
Allez à l'essentiel, hein, et essayez d'amener des nouvelles dimensions, hein, ne revenez pas sur ce qui a été dit par les précédents.
Certainement, je voudrais peut-être aborder les défis auxquels font face, hein, les zones industrielles également, mais je voudrais d'emblée saluer l'initiative du gouvernement au travers le ministère de l'Industrie, mais également, les défis sont énormes également. Je m'en vais énumérer quelques défis également. Non, au-delà des infrastructures, d'une zone économique spéciale qui constitue pour les entreprises une offre de réglementation, il y a également des défis auxquels font face les zones industrielles également, notamment les cadres institutionnels fiables. Un cadre institutionnel fiable, c'est celui qui permet à des accès faciles sur les services administratifs également. La question de savoir aujourd'hui, est-ce que le ministre peut-il nous garantir que ce cadre institutionnel fiable a-t-il été mis en place? Ici, je fais allusion à l'agence des zones économiques et spéciales. Je pense qu'au regard de la loi de 2014, la loi du 7 juillet 2014 portant les régimes sur les zones spéciales, essaie d'insinuer l'existence ou la création d'une agence des zones économiques fiables avec comme habilité ou compétence d'être juge arbitral, à même des médiations également, une agence d'arbitrage également des médiations. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre a fait-il nous dire aujourd'hui que cette agence a été créée pouvant permettre à ce que lorsque l'insécurité juridique et judiciaire naîtrait, que cette agence puisse arbitrer ou jouer de la médiation entre, d'une part, les contrats d'aménagement entre l'État et également les zones ou les gestionnaires du contrat, j'allais dire, de zones économiques spéciales.
Merci.
Ça, c'est le premier. Mais deuxième, je voulais citer...
Allez-y, rapidement, oui.
Oui, c'est l'indépendance du pouvoir juridictionnel. Dans un environnement institutionnel délétère, caractéristique d'un État en situation de fragilité comme le nôtre, l'accès à un juge professionnellement compétent et efficace est un défi majeur pour la sécurité juridique, des investissements et l'attractivité du pays. C'est pourquoi nous proposons que les recours à des modes alternatifs de justice est souvent recommandé pour renforcer les investisseurs également. D'où il faudrait non seulement créer l'agence et des zones économiques et sociales, mais aussi il faudrait encourager d'autre part les droits au hasard parce que celui-ci permet à ce qu'il y ait la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs. Mais
on
il faut citer par la création, les financements. Je pense que l'État doit disponibiliser, j'insiste, il l'a dit, il doit disponibiliser les fonds de garantie réels pouvant permettre à ce que les investisseurs, non seulement étrangers, mais beaucoup plus nationaux également et locaux puissent également faire face également. Nous décrions les cas de Bukangalonzo qui a été également dans une zone industrielle lors de 2013 également. Donc, l'État doit jouir ses prérogatives. Nous encourageons
Nous sommes patients, mais nous devons également professionnaliser les attributions qui sont les nôtres.
Merci. Monsieur le ministre Julien Paloukou, est-ce que vous pouvez répondre aux préoccupations de ces deux auditeurs, Obed et puis Maître Patrick Odia?
Tandis, moi je pense que la radio Okapi a fait un grand travail en organisant cette émission, parce que je sens quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Je commence par l'Agence des zones économiques spéciales. Je voudrais dire tout de suite à M. Patrick que l'Agence des zones économiques spéciales a été créée depuis longtemps et c'est elle qui signe les contrats d'aménagement des zones économiques spéciales. C'est elle qui assure la régulation des activités au sein des zones économiques spéciales. Actuellement, lorsqu'on a rompu les contrats d'aménagement de la zone de Maluku, c'est l'Agence des zones économiques spéciales qui est la ZES, qui fait office d'aménageur de la zone économique spéciale de Maluku. Donc je voudrais vraiment l'apaiser pour dire que cette institution existe bel et bien depuis plus de 10 ans. Et évidemment, elle était mise en veilleuse et en 2019-2020, nous l'avons plus ou moins ressuscitée. Et le président de la République a dû même nommer les animateurs à la tête de cette zone qui a déjà un comité de gestion et un conseil d'administration. Donc sur cette question-là, il peut avoir ses apaisements. Deuxième élément, je me rends compte que tous les investisseurs congolais, même les intellectuels, ne connaissent pas les instruments juridiques que la RDC a déjà mis en place pour attirer les investissements. Un, il y a la loi sur les partenariats publics-privés qui définit la manière dont l'État doit devoir gérer les investissements avec les privés. Deux, il y a la loi sur les zones économiques spéciales qui date de 2014. Je voudrais informer l'opinion que nous avons présenté une nouvelle loi à l'Assemblée nationale. Elle a été déjà votée et promulguée par le président de la République pour introduire tous les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers dans la loi. Désormais, ce n'est plus le décret de 2020 qui définit les avantages, mais c'est plutôt la loi, parce que les investisseurs devaient se sentir sécurisés lorsque les avantages étaient contenus dans la loi plutôt que dans un décret du Premier ministre. Troisième instrument juridique, c'est le code des investissements. Lorsque vous commencez les activités économiques dans un pays, nous détenons un code des investissements qui définit les facilités auxquelles vous devez accéder pour devoir investir en République démocratique du Congo. Quatrième instrument, c'est la loi sur la convention de collaboration. La RDC a défini les types d'investissement. Lorsque vous voulez investir à plus de 1 milliard de dollars, vous êtes régi par ce qu'on appelle les conventions de collaboration qui définit les types d'avantages que vous devez avoir. Et vous avez suivi dernièrement les contrats chinois lorsqu'on a fait des amendements ou l'avenant au protocole qui avait été signé. Et on a parlé des conventions de collaboration parce que ces projets-là concernent un montant supérieur à 1 milliard de dollars. Donc il y a des instruments juridiques qui sont déjà définis. Malheureusement, beaucoup de Congolais, y compris certains intellectuels, ne lisent pas. Il y a même quelqu'un qui dit que si vous voulez cacher des choses aux Congolais, il faut les écrire. Donc nous invitons tous les intellectuels congolais, tous les investisseurs, y compris la Fédération des entreprises du Congo, de lire tous ces instruments. Parce que lorsqu'on crée des zones économiques spéciales, ce n'est pas pour les étrangers que nous les faisons. L'investissement est ouvert à tout le monde. Je vais ouvrir une parenthèse pour la petite unité de Kirda que nous avons lancée le samedi dernier. Ce n'est pas tenu par un étranger, c'est un jeune, une jeune dame d'ailleurs, qui a donné l'idée, et l'État l'a accompagné. C'est pas l'État qui produit les Kirda.
Justement, monsieur le ministre, justement, oui. Il y a au sujet toujours de cette usine de fabrication de Kirda, il y a un auditeur qui vient de nous écrire, il dit que les bambous aident à la lutte anti-érosif, et il pense que si on coupe tous les bambous pour en faire les Kirda, les érosions vont réapparaître, et ça sera très mauvais, non seulement pour Kinshasa, mais pour toute la République.
Non, moi je pense qu'il y a autant d'arbres qui luttent contre les érosions, c'est notamment les comment ça s'appelle encore?
Eucalyptus.
Eucalyptus, hein, les eucalyptus. Ce sont plutôt les arbres qui luttent contre les érosions. Et les bambous ici, et nous avons accédé à l'association régionale de protection des bambous et des rotins, mais ici le projet a un volet des plantations de bambous. Si vous voyez la dame telle qu'elle a présenté son projet, elle a un volet plantation de bambous et un volet utilisation de bambous. C'est-à-dire, les bambous ont une durée de 2 ans pour la maturité. Elle a déjà commencé la plantation de bambous pour qu'elle ne puisse pas faire des déséquilibres au niveau de l'environnement des bambous qu'elle a trouvés. Donc, c'est pourquoi nous avons parlé de chaîne de valeur qui part de la plantation, la production et l'utilisation des bambous.
Merci.
Donc, je voudrais vraiment dire aux investisseurs congolais que le cadre institutionnel, le cadre légal est là, il faut les lire. Ce ne sont pas les étrangers pour lesquels nous avons fait ce cadre. Les Congolais ont des millions de dollars, mais ils préfèrent aller les thésauriser à l'extérieur.
Merci.
Ou ils préfèrent construire des immeubles qui s'écoulent comme celui qu'on a vu, au lieu de les investir dans des activités industrielles, dans les zones telles que nous les avons créées. Pas seulement à Kinshasa, mais à Lubumbashi, au sud Ubangi, au nord Kivu, et bientôt dans l'espace Kasai à Kalamambouji.
Merci, on va prendre les derniers auditeurs et puis on va redonner la parole à l'invité pour conclure. Maître Vizo Francis depuis Goma, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, Guy Maté.
Voilà, allez-y, mais soyez concis, hein, parce qu'on est, presque à la fin de l'émission.
Merci pour la parole. Je voulais poser une question au ministre. Dans son intervention, il a dit qu'il y a des subventions qui sont attribuées aux producteurs locaux, par exemple des ciments dans la partie est ici, au nord Kivu. Je suis à Goma. Mais j'ai constaté que malgré qu'il y a production du ciment par des producteurs locaux, le prix du ciment localement est presque égal au ciment qui vient de l'Ouganda. Je me demande à quoi va aboutir cette politique alors que les prix restent les mêmes. Et aussi, je veux savoir pourquoi les zones économiques spéciales qui sont dans des provinces n'avancent pas comme celles qui sont à Kinshasa.
Merci, merci, monsieur le ministre. Il y a aussi un auditeur qui nous a écrit, il dit les stratégies mises en place pour booster ces secteurs de l'industrie sont bonnes. Cependant, nous qui sommes isolés en RDC n'avons pas d'informations suffisantes sur les secteurs de l'industrie car depuis 5 ans, nous n'avons jamais consommé ou même voir seulement les produits fabriqués chez nous par nos frères de notre pays. Et aussi, apparemment, les zones économiques sont concentrées dans des villes. Voilà, voilà. Ça, vous avez déjà évoqué par rapport au deuxième comment aspect, vous avez déjà donné la réponse. Mais par rapport à l'information, vous communiquez, hein, monsieur le ministre, vous communiquez assez. Et, mais quand vous suivez les auditeurs ici, tous disent on ne connaît pas, on ne voit pas, on ne sent pas. Alors, à votre avis, vous ne pensez pas qu'il faille, n'est-ce pas, aider les gens à palper, à constater, à voir et à être convaincu qu'il y a des choses qui se font sur le terrain?
Bon, je ne sais pas s'il faut organiser des visites dans les différents centres de production pour que les gens se rendent compte que nous produisons quand même les câbles électriques, que nous produisons les emballages, que nous produisons les carreaux de faïence à Maluku, que maintenant tous les conteneurs qui venaient de la Chine et de Dubaï ne vont plus entrer au Congo. C'est des milliards de dollars que nous allons sauvegarder, que nous produisons de l'huile, que nous produisons X, que nous produisons. Si vous arrivez à la maison de l'entrepreneuriat congolais, vous trouverez des jeunes et des femmes qui produisent beaucoup. Et même dans toutes les provinces, il y a des... On a organisé la masterclass en 2019.
Merci, monsieur le ministre. On a organisé la fin de l'émission. Vous allez conclure, hein? Un mot en guise de conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
En guise de conclusion, la RDC est sur la bonne voie et je crois que le ministère de l'Industrie est un des facteurs importants pour la relance économique. On ne peut pas relancer un pays économiquement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais ce qui est fait constitue le tremplin et la boussole qui va amener d'ici 5, 10, 15 ans le pays à être un levier important pour l'économie de l'Afrique et du monde.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, monsieur le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie du gouvernement central, et bien sûr aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Patrick Kiasongwa et Dieudonné Mnyangaza qui était à la technique, et aussi à Blaise Chindani qui a réalisé et coordonné cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi. On se retrouve demain avec un autre sujet.